Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
Moi, je voulais être que toute seule. Hein. Je faisais que aller marcher toute seule. Non, c'est terrible. Je crois que c'est la chose la plus dure hein, que j'espère j'aurai à vivre dans ma vie. Parce que si je dois vivre quelque chose de plus dur, je sais pas si je vais pouvoir quoi. C'est très dur d'un point de vue personnel. C'est très dur pour un couple aussi parce que le deuil, je sais pas si pour certains couples ça rapproche, mais en tout cas pour nous, je peux pas dire que le deuil nous a rapprochés quoi.
On est deux femmes, donc je sais pas ce que c'est de perdre un enfant à l'accouchement, mais je sais ce que c'est que de donner naissance. J'ai l'impression qu'on s'est autant rapprochés qu'on s'est éloignés, quoi. On s'est éloignés parce que le deuil, on le vit de manière totalement différente. Elle a besoin d'être seule, j'ai besoin d'être du monde. Moi, j'ai Amaury m'a sauvé la vie. Quand Sarah était complètement effondrée, Amaury m'a littéralement sauvé la vie parce que j'ai dû me forcer pour lui et du coup, moi, je me suis un peu. C'est pour ça que on s'est autant rapproché qu'éloigné, parce que, du coup, quand t'es ensemble dans les coups durs, moi, je trouve quand même que ça rapproche. Elle m'a fait halluciner parce qu'elle a vécu, c'est un trauma, et franchement, je la trouve encore plus forte que ce que je la trouvais avant.
Et on ne réagit pas de la même façon. En effet, moi, je suis un peu comme une tortue, quoi. Je rentre un peu dans ma coquille. On réagit vraiment différemment par rapport à ça, donc ça, cette partie-là, en effet, nous a peut-être un peu éloignés, mais je crois que c'est compliqué, les deux positions sont compliquées. La position, la mienne n'est pas facile, parce qu'en effet, le trauma, il est dans mon corps, finalement. Mais je pense que pour Amy, c'est pas facile d'être à côté aussi, parce qu'à côté de quelqu'un, c'est très difficile, il faut gérer sa peine à soi, et puis on a quand même un peu le truc d'essayer de gérer la peine de l'autre.
Le deuil, c'est comme toutes les épreuves de la vie. Ça rapproche et ça éloigne. Et ça peut d'autant plus éloigner les couples qu'il y a un déséquilibre qui se crée d'emblée du fait de la dimension corporelle de ce deuil. Alors quand en plus le drame intervient en plein confinement lié au Covid et que le coparent n'a pu se rendre à aucun rendez-vous de suivi de grossesse, ce déséquilibre s'accentue. Alors on fait comme on peut pour que la distance ne devienne pas un fossé, que les différences de vécu ne deviennent pas cassures et fragilité supplémentaires. On a beau être ensemble, on a d'ailleurs beau être deux femmes, avoir vécu une grossesse chacune, on a beau s'aimer très fort, on n'est jamais deux êtres identiques qui chemineront au même rythme et de la même manière. Alors dans l'épreuve, on se rapproche, oui, mais on s'éloigne aussi, même quand on vit ensemble, même si on a déjà un enfant, même si on s'aime et qu'on se soutient. On peut être dans une même pièce et se retrouver catapulté dans deux hémisphères de ce monde qui tourne complètement à l'envers. catapulté aussi sur deux planètes complètement différentes, tout en étant confiné dans la même maison. Et comment on le vit, ce deuil, quand en plus nos proches sont à une dizaine de milliers de kilomètres et que toutes les frontières sont fermées? Et comment on fait quand nos amis qui sont à 5 minutes de chez nous semblent être à des années-lumière car il est impossible de se regrouper? Mais au bout du compte, il y a des montagnes qu'on parvient à gravir. Même si l'on trébuche, il y a fort à parier qu'il y aura des retrouvailles au sommet. Et puis il y a des distances que l'on parvient à combler. Au revoir podcast, épisode 38. Sarah et Émilie, notre deuil périnatal à l'autre bout du monde. Dans cet épisode, ce sont deux voix que vous allez découvrir, celle de Sarah et d'Émilie, ensemble depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, Sarah a 36 ans, Émilie 40, elles sont françaises, Sarah a même un petit accent du sud, et elles vivent à Melbourne, en Australie. C'est dans ce pays qu'elles décident d'avoir un bébé en passant par un parcours de procréation médicalement assistée. Leur premier enfant, il s'appelle Amaury et il a aujourd'hui 5 ans. Et pour cette première grossesse, c'est Émilie qui a été enceinte.
Quand on est arrivé en Australie, on n'avait pas encore accès à ce qu'on appelle Medicare, qui est l'équivalent un peu de la sécurité sociale, parce qu'on ne faisait pas complètement partie, on n'était pas citoyenne et ce genre de choses. Donc je pense que ça a un tout petit peu reculé en fait notre la date à laquelle on allait avoir un enfant, mais je crois que très vite on avait envie d'en avoir un. Et puis ensuite arrivé ici, une fois qu'on a eu ce qu'on appelle la permanent residency, donc la résidence permanente et du coup l'accès à la sécurité sociale, en effet très vite on s'y est mis. Alors c'est vrai qu'en Australie, être en couple hétéro, homo ou même en mère célibataire, on pourrait dire, la PMA est taxée à tout le monde. Paradoxalement, en Australie, quand nous sommes arrivés, le mariage pour tous n'existait pas, c'est-à-dire que on ne pouvait pas se marier en étant homo. Ça s'est passé depuis, mais on était déjà ici en Australie. En revanche, la PMA ouverte à toutes les femmes, ça fait vraiment des années et des années que ça existe en Australie.
C'était clair que toutes les deux, on avait envie de porter un enfant. Il était clair que si on savait pas combien d'enfants on allait avoir, on avait toutes les deux envie d'en avoir au moins un, donc ça veut dire au moins deux. Et il s'avère que entre la résidence permanente, le début des démarches, la liste d'attente pour les donneurs, le temps avance, et on est tous au courant que, à partir d'un moment, la fertilité descend. Donc j'ai quand même 4 ans de plus, donc on s'est dit, on commence par moi. Mais quand on commence la PMA, on fait des examens, et les examens ont montré que ma réserve ovarienne était très très basse, et que du coup, là par exemple, elle est quasiment dans le néant. Donc du coup, heureusement qu'on a commencé par moi, parce que je pense que je n'aurais pas vraiment pu plus tard. Le transfert d'embryon numéro 1, et il n'y en avait qu'un seul, le transfert d'embryon numéro 1, c'était Amaury, donc un bébé miraculeux, parce que c'était loin d'être gagné.
Quelque temps après la naissance de leur fils, Sarah et Émilie songent à avoir un nouvel enfant. Mais cette fois-ci, c'est Sarah qui le portera. Direction la PMA, donc, une seconde fois. Pour Émilie, il a suffi d'une fécondation in vitro, d'un embryon. Mais le parcours est loin d'être simple pour envisager cette deuxième grossesse. Sarah souffre du syndrome des ovaires polykystiques, les échecs se succèdent. Les tentatives débutent en 2019. La première insémination ne débouche pas sur une grossesse, on passe alors à la FIV. Lors de la première stimulation, Sarah ovule trop tôt, et la seconde débouche sur une hyperstimulation.
Et je crois que j'avais très peur en fait de ne pas y arriver, et j'avais très peur de pas y arriver en fait à tomber enceinte, et de ne pas lui donner ce qu'elle m'avait donné, je crois. Donc en effet, je m'étais mis une pression énorme, et ça a été très difficile. Mais quand on n'est pas confronté à un échec, on se dit, oui, c'est sûr, ça peut arriver, mais bon.
Ça arrive aux autres.
Et puis là, quand même, quand les échecs s'enchaînent un petit peu, et puis plus ça s'enchaîne, plus le temps passe. et puis plus aussi autour de nous, il y a plus de gens qui en ont un deuxième, un troisième, et tout ça, plus en effet ce truc-là monte quoi. Au premier échec, bon ben c'est pas grave, on continue, puis après au deuxième, voilà, l'anxiété elle devient de plus en plus grande, c'est faut que je me remette parce que sinon je vais pas y arriver en fait, et j'ai peur que en effet la grossesse soit trop compliquée. Donc après ces trois échecs un peu coup sur coup, on a décidé de faire une pause.
On veut un enfant, mais c'est pas la vie avant quoi. Donc du coup, on a congelé les embryons et là on s'est pris une petite claque de wow, faut faire quand même s'écouter, écouter son corps. Et je crois que c'est moi qui ai dit, écoute Sarah, on part en France. Tu te retapes, on congèle les trois embryons, ils vont aller nulle part. On a le temps, on a un enfant, on a pris notre temps et on est rentré de France.
Ouais,
on a attendu que vraiment tu te retapes quoi. Et, ouais. Et malheureusement, quand on a voulu réessayer, c'était début 2020 et bon.
Donc en effet, on avait fait une bonne pause et en plus de ça, alors ça n'a aucun rapport avec la grossesse, mais en effet, juste avant le Covid, il s'est trouvé que j'ai eu un cancer de la thyroïde. Donc on a dû m'enlever la thyroïde et tout ça, et puis ensuite il y a eu ben voilà le Covid qui a mis tout le monde un petit peu voilà dans un état un peu particulier parce que
et puis au-delà du Covid, cancer de la thyroïde, opération chirurgicale, ils nous ont dit pour info c'est 12 mois de stop dans tous vos projets. Donc déjà on savait que là on a eu beaucoup de chance qu'elle s'en remette, mais déjà il y a le côté mental de se prendre un cancer à 33 ans,
ouais.
Et il y a le côté de toute façon on s'est pris un an dans la vie, on a complètement mis ça de côté puisque de toute façon on nous a dit clairement que c'était pas un projet qu'il fallait vraiment envisager pendant 12 mois. Puis bon, de toute façon c'était pas compliqué de le mettre de côté parce que entre l'état mental physique de Sarah, cette pandémie qui est en train de toucher le monde entier, on s'est juste renfermé sur nous trois, dans notre maison, dans nos 5 km/h, dans notre heure de sortie autorisée par jour.
2020, on s'en souvient toutes et tous. C'est comme si le monde cessait de tourner. Dans les deux hémisphères, on appuie sur le bouton pause du fait de la pandémie. Une année passe, Sarah et Émilie sont bloquées avec Amaury en Australie, loin de leur famille. Dans ce pays, le confinement est ultra strict et l'année 2021 débute avec toujours le Covid comme toile de fond. Sarah et Émilie se posent alors la question suivante. Et si nous reprenions cette aventure de la PMA, là où nous l'avions laissée il y a plus d'un an? 3 embryons les attendent, et il suffit d'un transfert, un seul, pour que ça marche. Ça y est, Sarah est enceinte, elle le sent.
Moi j'ai su tout de suite que ça allait marcher, je crois. J'avais pas du tout peur, on a fait un test de grossesse juste avant la prise de sang, et j'ai dit à Emily, même sans regarder, j'ai dit je suis sûre, c'est bon. J'étais sûre, quoi.
Mais cette seconde grossesse est bien différente de celle qu'a connue Émilie quelques années avant. Déjà parce que Sarah n'a plus sa thyroïde, ce qui nécessite des adaptations constantes de son traitement médical. Il y a la fatigue intense, les nausées, le diabète gestationnel aussi. Et puis nous sommes en 2021 et il y a le Covid, la peur de l'attraper quand on attend un bébé. En plus, Sarah doit se rendre à tous ses rendez-vous seule. C'est l'époque durant laquelle le coparent, en Australie comme en France d'ailleurs, ne peut pas accompagner la personne enceinte. Émilie n'est donc pas aussi présente qu'elle le souhaiterait. C'est comme si, malgré elle, une distance s'était instaurée, qu'elle était seulement spectatrice de cette grossesse que Sarah vivait de l'intérieur.
Je n'ai été à aucun rendez-vous, donc elle a tout fait toute seule. Donc oui, j'avais des WhatsApp, des photos, des trucs, mais donc, du coup, aller à l'hôpital, attendre en bas, repartir alors qu'elle repartait au boulot. Sarah, elle l'a senti bouger, je l'ai pas senti bouger. Et Amaury et moi, on a été très spectateurs parce qu'Amaury, du coup, pareil, pas de rendez-vous, rien du tout. Donc bon, à part lui toucher le ventre, essayer de sentir les coups à la fin et tout ça, toute seule comme une grande, quoi.
Le tout premier, en effet, échographie là des 12-13 semaines où, en effet, là, c'est la première fois qu'on voit vraiment le bébé en entier. En effet, j'étais toute seule, quoi. Donc tout ce truc-là, on le vit tout seul. Alors bien évidemment, j'ai fait des photos, il y a des enregistrements, mais c'est pas du tout pareil, quoi. Et oui, et puis tout le truc de la grossesse Covid, en effet, tous les rendez-vous avec les masques, avec ce genre de choses, donc assez pas du tout pareil qu'en effet quand Emily avait été enceinte, où tous les rendez-vous sont un moment un peu de joie, Voilà, alors que là, en effet, tous les rendez-vous médicaux étaient pas du tout, il y avait pas du tout la même atmosphère, quoi. Même le milieu médical était assez, ici en Australie, ils étaient très très inquiets du Covid de manière générale, et encore plus inquiets par rapport aux femmes enceintes. Je me souviens que sur le moment, ça a été assez compliqué pour nous, quoi. On était là, on disait mais qu'est-ce qu'on fait, on se fait vacciner, on se fait vacciner. On n'était pas du tout anti-vaccin. Mais en effet, du fait que j'étais enceinte, c'était pas très clair, en fait. Tout était source un petit peu d'anxiété, il faut le dire. Alors après,
Et puis ouais, il y a eu, Amaury aussi, il était bon, à moitié pas à la crèche parce que c'était fermé à cause du Covid, mais, il a ramené tous les virus du monde, donc, nous on était un peu, bon, on le retire de la crèche, t'es enceinte, alors on le remet parce qu'on a un peu le droit et qu'on travaille toutes les deux à temps plein, mais que c'est l'enfer, mais du coup on n'a pas de famille. On n'a pas le droit de se rendre visite, on n'a littéralement pas eu le droit de visite pendant quasiment 2 ans, un peu par-ci par-là, quelques... Mais du coup, même nos potes qui sont notre deuxième famille, bah, ils aidaient comme ils pouvaient, mais même s'ils sont dans la maison d'à côté, ils n'ont pas le droit de venir chez nous non plus. Donc c'était vraiment... Et ouais, et malheureusement, tu as eu, je sais pas, tu disais 2-3 semaines, tu te sentais bien, les nausées étaient parties, tu te sentais bien, tu te sentais bouger, et bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après tout s'est arrêté.
Ouais,
mais
ouais, sinon, y a eu, ça a été, voilà, ça a été une grossesse, en effet, qui a été un peu sous le signe de l'anxiété un peu tout du long. Après quand même enfin, maintenant j'en garde quand même des super souvenirs parce qu'en effet Amaury était là tout le temps aussi, donc ça a été une grossesse que moi j'ai beaucoup vécu parce qu'en effet ben c'était en moi, mais qu'on a aussi beaucoup vécu à trois, on va dire, parce que en effet comme le disait Emily, pas beaucoup de visites. On voyait pas beaucoup de gens, c'était pour nous, c'était, alors pour vous c'était l'été, mais pour nous c'était l'hiver, donc en effet le peu de gens qu'on voyait à l'extérieur, j'étais pas mal habillée tout ça, donc même on va dire même le ventre qui s'arrondit et puis tout ça, même mes amis l'ont vu, mais pas beaucoup en fait. J'ai mis beaucoup de temps à me dire ça y est, je suis enceinte. Au début je me suis beaucoup protégée parce qu'en effet on avait eu des mauvais coups, on va dire, dans les années d'avant. Donc ça m'a mis du temps à me dire on va vraiment avoir un bébé. Et là j'étais vraiment, j'avais un peu basculé plus dans voilà, là ça y est, ça va arriver, on a quand même passé les grosses étapes, tout va bien, je le sens bouger, j'ai mon diabète que je maîtrise plutôt bien, je me sens bien physiquement, enfin donc tout allait plutôt bien. On était même cette semaine-là ou la semaine d'avant, on avait commencé à écrire des prénoms par exemple. Donc on avait clairement passé une étape psychologique de ça y est, ça va vraiment arriver. Et quand même le samedi, c'est un après-midi, et je m'en souviens parce qu'on était dehors, il commençait à faire un petit peu beau. Enfin, ce jour-là, il avait dit bon, en tout cas, on est mangé dehors et je faisais que dire à Andy, oh là là, j'ai mal au ventre aujourd'hui, mais je lui disais oh là là, j'ai l'impression qu'il est lourd. Le soir, c'était pire, quand j'étais debout, vraiment, j'étais mieux qu'assise, et en effet, la douleur, plus ou moins, allait et venait, donc, maintenant, je sais que c'était des contractions, à l'époque, je ne savais pas que c'était, comment, des contractions, je pensais vraiment à des douleurs pelviennes.
Finalement, Sarah et Emily décident de se rendre aux urgences. Sarah a peur que quelque chose n'aille pas. On lui fait des examens, une échographie, et tout se passe bien, le bébé bouge. Tout est rassurant. Sarah est enceinte de 21 semaines et elle aura, 2 jours plus tard, le mardi, son échographie du 2e trimestre. Sarah et Emily rentrent donc chez elles. Malgré tout, le lundi, Sarah retourne à l'hôpital parce qu'elle a l'intuition très forte que quelque chose ne va pas. Covid oblige, Emily doit l'attendre dehors. Aux urgences, Sarah attend son tour.
Donc je vois tous les gens qui rentrent, qui sortent, puis je vois des gens qui sont un peu stressés, puis finalement ils ressortent et puis ils sont en train de rigoler, donc je me dis non, mais toi ça va être pareil, ça va être pareil. Mais au fond de moi, ça, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je rentre dans la pièce donc d'échographie avec le médecin qui est une femme, et tout de suite je lui dis il y a quelque chose qui va pas, il faut regarder. Et elle me dit oui, vous inquiétez pas. Donc je comprends bien qu'elle a l'habitude en fait de mères qui ont exactement la même réaction, qui sont complètement paniquées et qui finalement tout va bien se passer. Elle me dit vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, tout va aller. Et je lui dis non, je vous assure quelque chose va pas. Et donc elle commence par une échographie vaginale et puis là, ben, elle dit rien. Tout de suite, silence. Alors en effet, je vois bien le bébé, je vois qu'il bouge et tout, donc je me dis oh, ça c'est bien. Et puis je le sentais bouger, donc et en effet là c'est le silence complet quoi. Je pense que ça doit durer 5 minutes. Je pense que dans ma tête ça dure 3 heures, mais en vrai je pense que c'est 5 minutes. Donc je vois qu'elle me dit rien et je me dis ben ne pose pas de questions parce que si tu poses une question peut-être tu vas entendre quelque chose que tu vas pas aimer. Attends, elle te dira de toute façon. Et puis elle me dit je vais juste montrer quelque chose à mon supérieur, je reviens. Et donc de là elle revient et pareil elle me dit rien. Et là elle commence à me faire une échographie du cou en haut. Donc et là elle voit, elle prend toutes les mesures du bébé et tout. Donc moi dans la tête je me dis ça c'est quand même bizarre. Elle me dit rien. Et donc là, moi, à ce moment-là, on savait pas le sexe du bébé. On avait décidé de garder la surprise, comme pour Amaury, parce qu'on n'avait pas su non plus pour Amaury. Et là, je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire si c'est un garçon ou une fille? Et elle me dit, ah, vous voulez vraiment savoir? Je lui dis, oui, là, j'en ai besoin de savoir. Et donc elle me dit, c'est un garçon. Et donc je dis, et donc là, j'envoie un message à Emily. Je lui dis, je pense que il va mourir, mais sache que c'est un garçon. Et là, au bout d'un bon moment, elle s'arrête, elle me dit, bon, tout va bien pour le bébé, toutes les mesures sont parfaites, il est exactement comme il devrait être. Par contre, votre col est dilaté à 3 cm. Et de manière intermittente, je vois ses pieds dans votre vagin. Et tout de suite, elle me dit, je suis désolée. Donc je comprends tout de suite, en fait, que c'est très très grave ce qui est en train de se passer.
Le moment donné où elle me lâche la bombe de c'est un garçon, voilà, j'ai compris que c'était grave de 10 échelons, parce que le fait qu'elle découvre le sexe de l'enfant seule et sans moi, c'est un truc qu'elle aurait jamais fait, quoi. Et là, je comprends la gravité du truc, quoi, et du coup, et de là, je lui dis, il faut que je rentre, là. Donc là, je vais à l'accueil et je fais tout pour rentrer. Et entre-temps, ils avaient prévenu, elle fait oui, on va vous laisser rentrer, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, je monte et je te rejoins et...
Je pleure pas ni rien hein, encore à ce moment-là. Je suis complètement vide en fait. J'ai des moments où je me dis bon allez, il va falloir se battre, il faut que tu reprennes tes forces. J'ai des moments où je me dis de toute façon c'est fini. C'est un peu voilà. Et puis là, ben en effet, je dis tout de suite à Emily, faut que tu préviennes ma mère. Moi je peux pas. Je ne peux appeler personne. Il va falloir que tu le fasses toi parce que moi je vais pas y arriver. Donc en effet très vite je reçois un message de ma sœur, un message de ma mère et tout ça. Mais c'est un peu un moment hors du temps quoi, ce moment-là quoi. Je me souviens, je regarde le plafond, je comptais les carreaux au plafond. Enfin c'est vraiment un peu bizarre quoi comme truc. Mais en tout cas je sais que j'ai entendu des témoignages où il y a des femmes qui disent qu'elles se sont mises à crier, à pleurer, qu'elles se souvenaient même plus de tout ça. Alors moi pas du tout, je suis complètement glacée quoi. Il se passe rien et je sens qu'en fait le traumatisme il est tellement fort que je n'arrive, il y a rien qui remonte pour l'instant quoi. Et donc très vite après Emily arrive et c'est bien qu'elle soit là parce que d'un côté alors j'ai quand même le côté où la première fois où je la vois Je vois son regard et finalement ça fait un peu mal parce que je vois son regard qui a de l'empathie et je me dis putain souvent on se rend compte de la gravité des choses par le regard des autres donc voir son regard je me rends compte de la gravité du truc et puis là après s'ensuit il se passe quoi peut-être on est mardi j'ai accouché le jeudi là, c'est 48 heures. En gros, il se passe à partir du moment où j'ai l'annonce de, voilà, votre col est dilaté à 3 cm. Et le moment où j'accouche, il se passe 48 heures.
Pendant quelques heures, personne ne sait ce que sera l'issue de cette grossesse, ni quand elle interviendra. S'en suivent l'incertitude, les « et si », l'attente d'un miracle, l'espoir, et puis la lucidité qui revient au galop, l'attente interminable. Des heures durant lesquelles les médecins tentent de s'assurer que Sarah et Emily ont tout compris de la situation. On leur expose les différents scénarios, car il y en a potentiellement plusieurs, mais pas de miracle possible, cependant. Sarah a très certainement une infection, et il faudra déclencher l'accouchement dès que sa santé sera menacée. Dans ce cas, son bébé ne pourrait pas vivre. Mais si on parvient à retarder cet accouchement de plusieurs jours, semaines, alors le petit garçon serait admis en réanimation, comme c'est le cas pour tous les bébés à partir de 24 semaines d'aménorrhée en Australie. 24 semaines d'aménorrhée, c'est 5 mois de grossesse. Mais 24 semaines, c'est comme une destination qui est à des années-lumière, d'où en est Sarah. Entre ces deux extrémités, il y a un entre-deux, et potentiellement un choix difficile à faire. Les médecins leur expliquent que si Sarah accouche à 22 semaines d'aménorrhée, soit en quelques jours, alors la décision de réanimer ou non le bébé devra être prise par ses deux mamans. Une décision lourde à prendre, tant une réanimation à ce stade peut entraîner de lourdes séquelles. L'autre possibilité, c'est finalement de laisser Sarah accoucher et hâter un peu l'accouchement. Au bout du compte, Sarah et Emily sont sur la même longueur d'onde. En apprenant aux urgences qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elles ont débarqué dans un monde dans lequel elles n'ont pas de repères, dans un autre hémisphère, aux antipodes du leur. Mais pour autant, elles le savent. Elles ne veulent pas que leur bébé souffre et décident de lui dire au revoir maintenant. Malgré tout, comme elles me l'ont dit ensuite, on ne pouvait quasiment rien faire contre cet accouchement quasi imminent.
Je suis convaincue qu'on a pris la bonne décision pour nous, en tout cas à ce moment-là, et je suis convaincue qu'on a pris la bonne décision pour lui aussi, mine de rien, et que finalement, ce qu'on a décidé, c'est de prendre la peine, nous, et de que lui il ne souffre pas, parce que lui était, pour l'instant, en tout cas, parfaitement heureux là où il était, puisqu'il bougeait, tout se passait bien, en tout cas pour lui, à ce moment-là.
Et voilà, moi, ce que a dit Sarah à très juste titre, c'est qu'elle a eu beaucoup peur pour le bébé, et moi, j'ai commencé à avoir peur pour les deux, parce que quand à un moment, ils vous disent, par contre, nous, la politique au Women's, donc à l'hôpital où on est, la politique à cet hôpital, c'est la maman en premier. À partir du moment où on va voir que l'infection est grave, on vide l'utérus, c'est le seul moyen de la sauver. Et là, je comprends Samir, là, mais on va peut-être perdre le bébé, mais on va peut-être perdre la maman, là. Enfin, on est où, quoi?
Donc on a déclenché même l'accouchement, on a été même plus loin que juste laisser le corps faire, donc j'ai commencé à me relever en effet, et on m'a donné le gel là pour amener l'accouchement quoi. Et en effet elle m'avait dit, bon généralement ça peut prendre jusqu'à 24 heures, c'est un accouchement tout à fait classique quoi, finalement, ça peut prendre 24 heures, bon elle m'a mis le gel, 20 minutes après j'ai appuyé sur le bouton en me disant il va sortir là.
Et c'est Loïs qui sort du ventre de sa maman Sarah, sous le regard de sa maman Émilie. Loïs, qui bougeait tant in utero, n'a pas survécu à l'accouchement. Il était trop petit. Vient maintenant le temps de la rencontre, de cette rencontre si particulière, dans cette bulle, hors du temps.
Et après, je dirais qu'une fois qu'il était là, je crois que le corps fait son travail naturel, c'est-à-dire qu'on a eu un moment de bonheur. Ce qui, je ne m'aurais pas attendu à ça, mais on était, enfin moi en tout cas, je crois que j'ai eu une montée d'hormones du bonheur en fait qui vient après, de manière juste physiologique, je crois, dans le corps. Et donc après, on a passé un petit moment avec lui. Par contre, on a passé du temps avec lui et en effet, ça c'est quelque chose qui, je pense, peut être très, je sais pas si on peut dire un conseil, mais. En tout cas, c'est un retour d'expérience. On avait très peur de ce qu'on allait voir. Et puis finalement, ça ressemble à un bébé juste tout petit. Mais il est juste plus petit. Mais en fait, tout est pareil. La seule grande différence, c'est la peau. Puisque la peau, elle est pas complètement... Il manque la dernière pellicule de peau. Donc, il était très foncé. Et je crois qu'ils sont tous assez foncés à cet âge-là. Donc j'avais un peu peur de cette vision, je crois que j'avais une espèce d'image dans la tête, et je sais que, et toi et moi, on posait quand même beaucoup de questions, on disait, mais comment ça va être? Et en effet, moi je salue, alors elles ne l'écouteront pas parce qu'elles ne parlent pas français, c'est sage-femme qu'on avait avec nous, mais en tout cas, tous les conseils qu'elles nous ont donnés ont été absolument exceptionnels. Et elles nous ont poussé à faire des choses qui ne nous semblaient pas intuitives et instinctives sur le moment, mais elles l'ont amené d'une manière qui nous a rassurés, et du coup on l'a fait, et aujourd'hui on est contente de l'avoir fait, et même on aurait dû le faire plus, parce que finalement, les seuls souvenirs qu'on a de lui, c'est ces 3 heures-là,
ouais. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que les conseils ont été donnés, répétés, redonnés, d'une autre manière, répétés, parce que t'es dans un truc de, oui, on te l'a dit de porter ton bébé, mais bon. Et après, il y a une deuxième chose importante aussi, c'est que ta maman a perdu un enfant à 6 mois, ton petit frère Sacha, et que ta mère a vécu exactement la même chose que toi, sauf qu'il est mort in utero. C'est pas exactement la même histoire, mais c'est à peu près le même délai. Et que ta mère, Sacha, c'était il y a 18 ans. Et du coup, c'était pas du tout les mêmes conseils. Et son plus grand regret, c'est pas d'avoir porté, pas de l'avoir, enfin, de pas avoir passé du temps avec lui. Donc, elle nous a dit ça avant à toi. Donc, elle a dit, en gros, faites pas la même erreur, quoi, parce que vous regretterez toute votre vie. Donc, du coup, on a eu, entre sa maman et le corps médical, on a eu, extrêmement de bons conseils pour avoir aucun regret par la suite. On a une photo de nous trois, où littéralement, Sarah et moi, on est en train de sourire et de regarder. Donc, on est vraiment dans une bulle.
Ouais, c'était un très beau moment. Et puis voilà, on est resté un peu à l'hôpital, on a repassé une nuit à l'hôpital, et le lendemain, je suis sortie, et je me souviendrai, on est sortie, et je me souviendrai toujours de quelque chose que nous a dit. Alors, on a eu plusieurs médecins qui sont venus, on a aussi eu pas tout à fait une psychologue, une assistante sociale, voilà, qui est venue nous expliquer, et elle nous a dit une chose, elle nous a dit, j'imagine que vous avez envie de partir de l'hôpital, mais sachez que l'hôpital, c'est un peu une bulle. Donc, après, quand vous allez être à la maison, peut-être ça sera plus difficile. Donc, sachez que vous pouvez appeler ce numéro, tout ça, donc, et en effet, c'est ça, parce que, à l'hôpital, c'était très dur, mais c'est un peu comme, c'est le choc, quoi. Et on est encore dans cette espèce de bulle où on se fait traîner un peu par tout ce corps médical autour qui représente un peu des je les ai appelés les fils nos fils invisibles, quoi. C'est un peu des fils qui te portent un peu dans ce traumatisme, en tout cas autant qu'elles peuvent, à nous deux, parce que on
surtout,
était là
t'es à l'hôpital, t'es avec lui, quoi. Attention, tu parles de l'hôpital aussi, moi j'ai ce conseil, je m'en rappelle, et c'était très moi, c'était, mais sortez-moi de là, quoi. Les bébés qui hurlent, la matière, les gens qui sortent et tu descends de la matière et les bébés de un jour, deux jours, parce qu'en Australie, au bout d'un ou deux jours, tu sors. Et donc, du coup, moi, je disais, mais sortez-moi de là, quoi, parce que c'est trop dur à encaisser. Et en fait, elle avait raison. À partir du moment où tu sors, t'affrontes le monde extérieur et c'est encore pire. Et le deuxième drame, c'est d'aller l'annoncer à Maurice, quoi. Donc, du coup, c'est clair que... C'est clair que la sortie de l'hôpital était tu vas voir tes potes, tu vas récupérer ton enfant, tu vas te déposer illégalement chez tes potes parce que t'es en confinement et que t'as pas le droit d'aller chez les gens. Donc tu vas récupérer ton enfant, tu rentres chez toi et tu dois lui annoncer. Donc là, c'était un peu des drames qui s'enchaînent.
Car pendant ces deux derniers jours, Amaury, le fils aîné de Sarah et Emily, était chez des proches. Et c'est jamais simple d'annoncer la mort à un petit enfant qui s'apprêtait à devenir grand frère. Alors à l'hôpital, les sages-femmes, les assistantes sociales accompagnent Sarah et Emily du mieux possible. On leur propose des livres avec lesquels elles peuvent repartir. On leur donne quelques conseils quant aux mots à prononcer devant un petit garçon de 4-5 ans. Sarah et Emily, encore sous le choc, prises dans ce tourbillon du deuil périnatal et de ce monde qui ne tourne pas rond, rentrent chez elles. Le ventre est vide, les bras aussi, mais dans leur tête, il y a toutes ces images de Loïs. Et dans leurs mains, un dossier, des photos, des empreintes. Maintenant, il va falloir dire à Amaury que son petit frère est mort.
Surtout, elles nous ont dit, bon, alors un enfant de 4 ans, il croit au super-héros, donc en gros, faut lui dire exactement ce qui s'est passé et pas, il est parti, il est dans les étoiles, il est machin et des trucs, il est mort, il peut pas respirer, avec des mots clairs, nets et précis. Et moi, ça m'a trop aidé parce que Sarah, qui est très intuitive et qui fait vachement un peu à l'intuition, moi, je suis un peu, dites-moi dans un livre comment on fait, quoi. Et après, on rentre dans cette maison, alors, on a la chance d'avoir un enfant et de pas avoir une maison vide avec tous les trucs de bébé qui sont prêts et c'est pas notre premier enfant, mais tu rentres quand même dans une maison avec Sarah, elle a le ventre vide, donc c'était horrible. Et puis Amaury s'est effondré, j'ai jamais vu Amaury pleurer comme ça, il s'est effondré il pleurait à grosses larmes, mais moi je veux pas qu'il soit mort, mais moi je veux mon petit frère, mais je veux que mon petit frère il soit là. Et puis en plus il parle à 4 ans, donc avec ces mots, il c'était vraiment,
c'est dur. Après, en contrepartie, au bout de 5 minutes, il pleure à chaudes larmes, et puis 5 minutes après, il est passé à autre chose. Ce qui est un peu, le deuil, je crois, chez les enfants, ça va, ça vient, il faut juste l'accepter quand il vient, quoi, je pense. Au début, on en a beaucoup parlé, je pense qu'on a essayé de lui en parler plus, et on a beaucoup utilisé les mots en disant, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute de maman Emily, ce n'est pas la faute de maman Sarah, ce n'est la faute de personne.
Dans cet univers méconnu, où tout semble sans dessus-dessous, où l'on peut mourir avant de naître, où la pandémie sévit, où les frontières sont fermées, dans cet univers dans lequel les distances physiques et les gestes barrières rendent infranchissable la courte distance qui nous sépare de nos amis, il y a des étapes à franchir. Préparer des funérailles, par exemple. Ce qui a frappé Émilie et Sarah, c'est la manière dont on respecte la mort et les endeuillés en Australie. Pas de maladresse, ni de hâte dans l'organisation des préparatifs. Juste de la bienveillance et la conscience qu'il faut ralentir le rythme. Prendre le temps au milieu de ce tsunami.
Les funérailles, ça, c'est une étape nécessaire. C'est une étape difficile, mais en effet, c'est nécessaire, je pense. Enfin, c'est bien. Enfin, en tout cas, si les gens ont le choix de le faire, moi, je conseillerais de le faire, parce que je crois que ça fait partie de ces choses. On a l'impression que ça va être vraiment absolument horrible, mais quand même, c'est une étape, c'est quelque chose qui maintient aussi, qui maintient ici par rapport à... Parce que je sais que la plupart des gens qui vont écouter sont en France. Je crois que les anglo-saxons, de manière générale, n'ont pas du tout la même approche de la mort que nous, en termes latins. J'ai trouvé qu'il y avait un respect de la mort ici en Australie qui était énorme, et un respect du temps, en fait. Donc tout de suite, on a été en contact avec une... comme des pompes funèbres, voilà. Et en fait, on a eu... on a eu affaire à une dame qui était, pareil, assez exceptionnelle, et qui tout de suite nous a dit... Oh là là, mais vous n'avez pas du tout besoin de prendre des décisions tout de suite. Nous, on va prendre soin de Loïse le temps que vous en avez besoin. Donc, nous, on est là pour ça.
Ben, c'est des petits trucs d'eux, ils prennent soin, ils respectent la mort. Et tout ça, c'est un peu... ça va pas le ramener, ça nous fait pas vraiment aller mieux, mais c'est... tout le monde prend soin de lui, en fait. On n'est pas avec lui, mais en fait, il y a quelqu'un qui le regarde, qui l'habille, qui prend soin de lui tous les jours. Et du coup, c'est vachement... c'est rassurant dans une période de la vie où on est complètement déchiré, on sait même pas quel jour on est. Et
après tout ça, est-ce que la vie reprend son cours ? Non, pas tout à fait. En ce mois d'octobre 2021, Sarah est en congé maternité, Émilie reprend le travail. Émilie a besoin de voir du monde. Pour Sarah, c'est presque vital de s'isoler. Pas les mêmes envies, pas le même rythme. Mais une chose est sûre, elles ont besoin de partir. Elles ont besoin d'ailleurs, elles ont besoin de faire leur valise, de quitter l'Australie où elles sont confinées depuis quasiment 2 ans pour aller là où il y a leurs racines et leurs proches, en France. En novembre, plus d'un mois après le décès de Loïs, les frontières sont de nouveau ouvertes. Elles prennent l'avion avec Amaury, direction l'hémisphère nord. Tout ne sera pas radicalement différent. Le deuil, le manque, la tristesse font partie de ce voyage. Sarah m'explique qu'à ce moment-là, elle est encore dans l'acceptation avant de pouvoir entamer la reconstruction. Alors on peut imaginer que ce voyage en France, c'est un voyage vers l'acceptation, escale nécessaire avant la reconstruction.
Je crois qu'au début, en tout cas moi j'avais l'impression qu'on allait atterrir et que j'allais avoir une petite bouffée d'air, quoi. Alors pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que finalement, les premiers jours, je pleurais toujours autant que les jours d'avant. Et le fait d'être chez moi, ça changeait pas complètement, drastiquement en fait ce que je ressentais.
Puis c'est un voyage où on n'aurait pas dû être là. On n'a pas arrêté de le dire aussi. C'est on n'aurait pas dû être en France. On n'aurait pas dû passer l'hiver en France. Ouais. On devait rentrer en France avec un deuxième enfant en été l'année d'après. Donc c'est le voyage où on était content, mais c'était pas prévu comme ça, quoi.
C'est toujours pareil, des fois, sur le moment, on ressent quelque chose, et puis après, quelques semaines après, on se rend compte que ce truc-là, ça a fait du bien, quand même. Moi, je reste persuadée que ce voyage-là, il nous a fait un bien énorme, d'un point de vue personnel. Moi, j'ai clairement senti qu'il y avait des étapes dans ce voyage. Il y a eu des moments dans le voyage où j'ai senti que, ah, ça y est, il y avait quelque chose qui partait, et je passais peut-être à quelque chose de différent, et tout ça. Donc en effet, ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien de voir les gens aussi qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'il s'était passé tout ce Covid et tout ça. Maintenant, encore une fois, on était dans une nouvelle vague de Covid en France pendant voilà Noël. Toute la famille d'Emilie a eu le Covid, donc on a dû changer pas mal de plans, qui c'était pas prévu comme ça. Nous-mêmes, on a eu le Covid. Enfin, donc il y a eu toute une espèce de truc qui est le voyage n'était pas, il s'est pas passé exactement comme il devait se passer non plus. Mais je pense que dans le deuil, ça nous a fait du bien de manière personnelle. Ça a peut-être été un peu plus dur sur notre couple, parce qu'en effet, quand normalement il y a un traumatisme comme ça très fort, on a un peu besoin en effet de temps, mais on se reconstruit ensemble dans un cocon. Il s'est passé ça le 6 octobre, donc j'ai accouché le 6 octobre. On est parti d'Australie pour aller en France, on devait être quoi, mi-novembre, fin novembre.
Ouais.
Donc il s'est passé, on va dire, allez, le mois et demi, où on était là, où Emily a dû reprendre le boulot, moi je m'occupais d'Amaury parce qu'on l'avait pas remis à la crèche. Donc tout ça, ça a été très très compliqué à gérer, il faisait très mauvais en Australie, on pouvait même pas aller dehors trop, enfin c'était très très compliqué. Et on est arrivé après en France, pendant 2 mois et demi, on était constamment avec des gens. Puisque on dormait ben ou dans la famille d'Emily ou dans la mienne ou on est pas, mais on était constamment entouré. Donc pour nous en tant que couple, ça a été difficile parce que du coup il y a pas eu du tout eu de moment où on était à deux ou même à trois avec Amaury. Donc je pense que c'est un voyage qui encore une fois était nécessaire, nous a aidé à être là où on est maintenant. Mais après le retour en Australie par contre nous a aussi fait beaucoup de bien. Une fois qu'on est encore revenu ici, mais qu'on avait passé ces 2 mois et demi à faire autre chose en fait. Et c'est vraiment en revenant que je pense qu'on est passé peut-être à l'étape supérieure. Donc
c'était nécessaire. Et quand on est revenu en Australie, enfin mine de rien, février c'est l'été, il n'y a pas de confinement. C'est la première fois en Australie depuis 2 ans où on peut aller boire un verre dans un bar avec 10 potes et faire un anniversaire avec 15 enfants. On sait plus ce qu'est le cancer, le Covid, la perte du bébé. Et du coup, là, ça fait 2022, ça fait, voilà, on a fait la France, on a fait plein de trucs. Et là, on vit, on tout le monde, alors le troisième ou le deuxième, selon les gens, on fait, non, mais là, tout va bien, là. Là, on vit, en fait, on vit tous les trois à fond. Et ça fait bien longtemps que tous les trois, on n'a pas vécu à fond sans des mauvais coups. Donc là, du coup, c'est on prend le temps. Sa maman est venue, on est parti dans le Queensland, là-haut, à la grande barrière de corail. On fait des trucs qu'on n'aurait pas fait avec un nouveau-né. Donc on est parti dans le bush, on a fait des trucs en 4x4 avec Amaury, etc., qu'on n'aurait jamais pu faire.
Vivre à fond, reprendre son souffle pour reprendre des forces. S'offrir une parenthèse de voyage et d'évasion pour se reconstruire après avoir traversé le deuil périnatal, le cancer, et puis ce Covid qui a mis des barrières entre Sarah, Émilie et leur famille de sang, en France, et leur famille de cœur, en Australie. Tout ce qu'elles ont vécu, ce sont des épreuves dont il faut parvenir à se relever individuellement, certes, mais aussi en duo. Car si Émilie et Sarah, maman d'Amaury et de Loïs, ont fait le choix de vivre à fond comme elles le disent, c'est aussi pour préserver leur couple et lui donner toutes les chances de poursuivre ce chemin qu'elles ont entamé ensemble il y a une dizaine d'années. Car le deuil périnatal, comme toutes les épreuves, ça rapproche et ça éloigne.
On est deux femmes, donc je sais pas ce que c'est de perdre un enfant à l'accouchement, mais je sais ce que c'est que de donner naissance. J'ai l'impression qu'on s'est autant rapprochés qu'on s'est éloignés, quoi. On s'est éloignés parce que le deuil, on le vit de manière totalement différente. Elle a besoin d'être seule, j'ai besoin d'être du monde. Moi, j'ai Amaury m'a sauvé la vie. Quand Sarah était complètement effondrée, Amaury m'a littéralement sauvé la vie parce que j'ai dû me forcer pour lui et du coup moi je me suis un peu c'est pour ça que on s'est autant rapproché qu'éloigné parce que bah du coup quand t'es ensemble dans les coups durs, moi je trouve quand même que ça rapproche. Elle m'a fait halluciner parce que ce qu'elle a vécu c'est un trauma et franchement je la trouve encore plus forte que ce que je la trouvais avant. Elle s'est pris le cancer, la pandémie, ce trauma là, donc je suis un peu voilà. Mais en respect de ses en termes de physique et mental, et en même temps on s'est éloigné parce qu'on est tellement différentes que du coup moi je me suis un peu occupée d'Amaury et sorti la tête de l'eau pour continuer d'avancer comme je pouvais, et elle vit son deuil de manière hyper différente. Donc je pense que ouais, on s'est dans le fond on s'est rapprochés, je dirais, mais le deuil nous a fait prendre des chemins qui étaient quand même pas les mêmes. Mais c'est pas, on s'est éloigné, on est en train de partir, voilà. C'est juste, on a pris des routes complètement différentes. On essaye toutes les deux. Je lui ai écrit une lettre On essaye de gravir la montagne toutes les deux comme on peut, chacune de notre côté avec nos tuyaux à nous pour essayer d'arriver là-haut. Bon, et à un moment donné, on va essayer de le faire ensemble maintenant que la grosse vague est passée, parce qu'on y arrivera mieux à deux.
Ouais, il y a des choses sur lesquelles on s'est éloigné parce que, comme tu le dis, on est des personnes à part entière et on n'a pas besoin des mêmes choses et on ne réagit pas de la même façon. En effet, moi, je suis un peu comme une tortue, quoi. Je rentre un peu dans ma coquille. On réagit vraiment différemment par rapport à ça. Donc ça, cette partie-là, en effet, nous a peut-être un peu éloigné, mais je crois que c'est toute épreuve qui peut faire ça. En effet, là où ça nous a rapprochés, c'est que on est encore ensemble, on a vécu ces 3 ans là très très difficiles ensemble, purée, on va y arriver quoi. Voilà quoi, en tout cas on lâche pas et en effet c'est pas facile, mais voilà quoi, on continue d'essayer, on continue de s'en parler, de se dire qu'est-ce qu'on pense, voilà, on a eu beaucoup de discussions, je pense, et c'est peut-être même pas assez, mais on en a eu beaucoup sur, tu vois, quand tu dis des choses comme ça, moi, ça me fait ressentir ça. Et on se rend compte que des fois, il y a une différence entre l'intention qu'on a quand on dit quelque chose et la façon dont la personne entend cette chose. Et ça, c'est 2 choses complètement différentes. Et ça, c'est en tout cas quelque chose qu'on apprend sur notre couple, je pense, avec cette épreuve. Donc, tout ça pour dire, c'est pas facile, mais on va y arriver.
Cet épisode s'achève donc sur les rires de Sarah et sur cette image proposée par Émilie, cette image de la montagne à gravir ensemble. Je tiens à remercier Émilie et Sarah d'avoir partagé avec nous l'histoire de leur famille. Nous avons enregistré toutes les 3 il y a 1 an. Depuis, elles ont repris le chemin de la PMA et espère fort, un jour, avoir un autre enfant. Je suis Sophie de Chivré et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Alors si vous voulez offrir à ce travail plus de visibilité, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.